Allez. Voilà. Quand on survit la technique, ensuite on peut fonctionner comme des êtres quasi normaux. Ben, bon après-midi à tous et à toutes, et puisse le Seigneur bénir ces quelques moments que nous allons passer ensemble autour de sa bonne parole. Prenons en considération que la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui nous est donné au hasard. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est quelque chose que l'Esprit Saint met au cœur des prédicateurs et qu'on veut partager avec son peuple pour son édification. Nous vivons, nous le savons tous, je pense, dans une société, dans une culture de très, très grande confusion, de très grands conflits. Et quand on parle de conflits, c'est dans toutes les directions. Hein? On parle de conflits d'abord horizontaux, bien sûr, nation contre nation, individu contre individu, personne contre personne. Mais l'origine de ce conflit-là puise sa source dans le monde spirituel. C'est ainsi qu'Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors nous ne sommes que des instruments conflictuels aux mains de ces puissances-là, en quelque sorte. Ce que ça veut dire en simple, c'est ceci. C'est que le monde est en conflit avec le Père. C'est que la chair est en lutte contre le Saint-Esprit. Et c'est que Satan s'oppose à Dieu. C'est toute la personnalité trinitaire qui est en cause. Maintenant, ne transposons pas ce conflit-là hors de nous en disant qu'il y a une guerre à l'extérieur entre la lumière et les ténèbres, mais que nous, nous ne sommes que des témoins hors du terrain. N'est-ce pas? Rappelons-nous que nous ne sommes pas les premiers à dire cela. Cornelius Van Til, un grand théologien, n'est-ce pas, il n'y a pas si longtemps, affirmait cela, et avant lui, le grand philosophe du 19e siècle, Kierkegaard, disait la même chose. Lorsqu'il reprochait aux philosophes, n'est-ce pas, de croire qu'il y avait des choses qui se passaient sur le terrain, mais qu'eux étaient à l'extérieur. Nous sommes partie prenante de ce conflit-là, de ce conflit-là, effectivement. C'est notre combat parce que tout cela s'opère au niveau de notre volonté. On voudrait que les gens pensent comme nous. On voudrait que les gens fassent comme on voudrait qu'ils fassent. Ce qui n'est pas souvent le cas. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, quand ça ne se produit pas, ça produit en nous une certaine irritation. Et là, ça peut générer, non seulement ça peut générer, mais ça génère des conflits. C'est dire que toute l'histoire de notre salut, c'est l'abandon, l'apprentissage progressif de notre abandon, de notre volonté au profit de celle de Dieu. Le texte qu'on va considérer aujourd'hui pourrait se résumer ainsi, réception et soumission, c'est-à-dire réception de la grâce et soumission à l'œuvre de cette grâce-là, d'où le titre de mon message, « Êtes-vous en panne de grâce? » Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître de Jacques au chapitre 4 et nous allons lire les versets 6 à 10. Nous poursuivons donc notre étude de cet épître-là de Jacques. Est-il utile de rappeler que c'est une belle lettre de Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus, une lettre qui se veut pastorale et non pas théologique. On n'est pas ici en face d'un discours de théologie systématique ou de dogmatique. C'est simplement une série de prédications pastorales que Jacques donne, que Jacques nous livre en nous disant « Voici comment se vit la vie chrétienne ». C'est donc dire que c'est un message qui s'adresse à des croyants, à des chrétiens. Parce que sans la grâce qui nous permette de vivre cela, on oublie même l'amorce de cette vie-là. Il est extrêmement important d'avoir cette grâce-là afin de progressivement grandir dans l'obéissance et dans la soumission à cette grâce-là. On sait que, selon Flavius Joseph, Jacques serait décédé martyr aux alentours de l'an 62. Mais nous avons sa lettre et elle est riche et il nous fait plaisir de la lire donc au verset 6 à 10 du chapitre 4. « Il accorde au contraire, il, c'est bien sûr Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Puisse le Seigneur bénir ces quelques propos, qui sont siens d'ailleurs, les bénir à sa plus grande gloire. J'aurai trois points aujourd'hui, pour continuer dans la bonne suite, et ils vont comme suit. Premièrement, l'entrepôt de la grâce. Deuxièmement, les bénéficiaires de la grâce. Et troisièmement, la marche dans la grâce. OK? L'entrepôt de la grâce, les bénéficiaires de la grâce et la marche dans la grâce. Premièrement, l'entrepôt de la grâce. Le théologien A.W. Tozer a écrit dans un de ses bouquins, enfin c'est le titre de son bouquin, « Nearness is likeness ». La ressemblance, c'est la proximité, pour traduire librement. Plus nous sommes comme Dieu, plus nous sommes près de lui. Vous savez, je peux être assis dans mon bureau avec mon chien sur mes genoux, alors que mon épouse est dans la cuisine à, je ne sais pas, une vingtaine de mètres de moi, mais je suis beaucoup plus près de mon épouse que je suis de mon chien, parce qu'il n'y a aucune communauté entre mon chien et moi, alors qu'il y a communauté entre mon épouse et moi. Plus nous ressemblons, plus nous sommes semblables à, plus nous sommes près d'eux. Et c'est le texte, c'est le discours que le texte nous tient à cet effet-là. Il avait ainsi dans notre relation avec Dieu. Dieu qui s'approche de nous lorsque nous lui sommes semblables. Plus on lui ressemble, plus il est proche de nous. Augustin disait, plus nous sommes chrétiens, plus nous sommes. Plus nous sommes croyants, moins nous sommes. Plus nous sommes, moins nous sommes croyants, moins nous sommes. On ne tombe pas dans la... Le mot ne me vient pas, mais dans ça, là, on ne tombe pas dedans. L'inexistence, mais le fait demeure. Donc, plus nous sommes près de Dieu, plus nous sommes près de lui, lorsque nous nous débarrassons du péché dans nos vies, lorsque nous nous démarquons du péché, Dieu s'approche toujours de nous. D'ailleurs, c'est la thèse du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il nous est dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce que je voulais dire tout à l'heure, qui nous empêche de tomber dans le non-être. Voilà, ça m'est revenu. Dieu veut un parfait contrôle sur nous. Dieu veut un parfait contrôle sur nos âmes et l'âme partagée n'est jamais près de Dieu. Pensons à Abraham et à Lot. Abraham est un homme qui était près de son Seigneur. Abraham était, il parlait avec Dieu, il était en communion avec Dieu, il marchait devant Dieu, il cherchait la face de Dieu. Abraham est un homme de Dieu, on l'appelle, à bon titre, le père des croyants. Lot était beaucoup moins près, n'est-ce pas? Lot a choisi Sodome. Et tristement, il a en quelque part vécu comme un sodomite, même si dans le Nouveau Testament, on l'appelle Lot le juste. On sait qu'il n'a pas beaucoup joui de la bénédiction du Seigneur notre Dieu. Il y a un concept en théologie que nous appelons le péché rémanent, le péché qui reste encore après notre conversion et contre lequel on lutte toute notre vie durant. Lorsque le Christ entre dans notre vie, lorsque nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, j'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde ici, sur le même plancher, être justifié, ce n'est pas être fait juste, c'est être déclaré juste. Dans la sanctification, là, on devient de plus en plus en conformité avec notre justice. Hein? On devient de plus en plus en conformité avec notre position de juste. Mais être justifié, ce n'est pas une condition, c'est une position. Alors, lorsque nous sommes justifiés, il y a bien sûr rupture d'avec le péché, Cependant, il y a un aspect progressif qu'on appelle, comme je viens de mentionner, la sanctification. Lorsqu'on vient au Christ, bien sûr qu'on est sanctifié. Il y a rupture avec le péché, mais il y a aussi l'aspect progressif, où dire qu'on avance dans la sanctification, c'est mal dit, mais là où il y a une croissance dans l'obéissance à la pensée du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 et 2 nous dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » Il y a les deux aspects, hein? Sanctifié en Jésus-Christ, saint par vocation, appelé à être saint ou saint par vocation. C'est donc ce péché rémanent qui nous reste encore collé à la peau, même après la conversion, qui fait qu'on a besoin constant d'un renouvellement de grâce. Et c'est la grande promesse qu'on retrouve au verset 6. Il accorde, Dieu accorde au contraire, une grâce plus excellente. Il accorde une grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, une grâce plus excellente? Est-ce que Dieu a des grâces moins excellentes? Je ne pense pas que ce soit ce que le terme veut dire, parce que l'expression en hébreu, c'est « méga », mais c'est « mégas ». Hein? « Méga » veut dire « grand ». Une grâce plus grande, mais ce serait plus vrai de dire une grâce conquérante, une grâce renouvelée, une grâce qui nous amène à aller de l'avant. C'est intéressant d'ailleurs, j'ai vérifié dans quelques versions. Et où est-ce que j'ai trouvé ça? Voilà. Dans la Jérusalem, dans l'Osterwald, dans la Darby et dans les versions anglaises, on traduit par « grâce suivante » ou « grâce plus grande ». Ça veut dire qu'après la conversion, il y en a encore à recevoir de la grâce. On n'a pas épuisé l'entrepôt de la grâce à la conversion. Il y en a encore et nous en avons encore besoin pour aller de l'avant. Une grâce qui se manifeste en victoire. Et ça rencontre la pensée d'Augustin qui disait que Dieu donne ce qu'il ordonne, ce qui avait valeur, bien sûr, de mettre Pélage dans tous ses états. Hein? Pélage croyait effectivement que l'homme était libre et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il pouvait décider de suivre Dieu et qu'il pouvait décider ceci ou cela. Non, Augustin disait, c'est la grâce de Dieu. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il disait à Dieu, donne ce que tu veux et ordonne ce que tu veux. Dieu donne ce qu'il ordonne. Mais quelle nouvelle nous avons au verset 6. Quel réconfort que de savoir que Dieu est inlassablement de notre côté. Dieu donne une grâce conquérante. Quelle que soit notre situation, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, l'immensité de l'épreuve que nous traversons, quelle que soit la conscience de ma faiblesse, Seigneur, tu sais très bien que je ne suis pas capable de faire face à cela. Dieu donne une grâce conquérante. Quelles que soient les montagnes, les cul-de-sac, les océans que j'ai devant moi, Dieu donne sa grâce conquérante. Il ne nous fera jamais défaut dans nos besoins, alors qu'il a toujours plus de grâce à portée de main pour nous. Il n'est jamais à court, il a toujours plus à offrir. Ça, bien-aimé, c'est ce qui s'offre à notre foi. C'est ce qui s'offre sur un plateau à notre foi. Et même notre manque de foi, ou la faiblesse de notre foi, fait en sorte que Dieu donne une grâce conquérante pour l'affermir et la fortifier. On demande, on s'assoit auprès de lui, on s'attend à lui. Vous savez, s'il fallait un certain nombre d'œuvres pour conserver notre salut, nous serions des gens sans espoir. Quand est-ce qu'on a des doutes sur notre salut? Quand on se regarde le nombril. Amen. Mais quand on regarde vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Mais quand on regarde à nous, on voit des grosses poubelles. Il faut bien le dire, hein? On voit des pécheurs dépravés en devenir, qui ont reçu quand même une disposition nouvelle, mais encore des pécheurs. Ésaïe chapitre 64, verset 5 nous dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et on sait qu'il y a un euphémisme ici là, pour ceux qui sont au courant. « Toutes ces bonnes œuvres sur lesquelles on veut faire reposer notre salut n'ont aucun poids devant Dieu, sinon qu'un message blasphématoire. » C'est un blasphème que de se présenter devant Dieu en disant « Vois les bonnes œuvres que j'ai faites aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Il y a une place pour les bonnes œuvres après le salut. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Les bonnes œuvres qu'on fait en reconnaissance à notre Dieu. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, mais jamais nos bonnes œuvres doivent précéder la venue de la grâce. C'est un blasphème devant Dieu que de dire « Garde la grâce, je vais m'occuper des bonnes œuvres. » J'ai un petit livre que j'aime beaucoup. Je les commande toujours par douzaine, il m'en reste presque plus, il m'en reste deux. Je les ai apportés avec moi aujourd'hui. Ça s'intitule « Since nobody's perfect, how good is good enough? » Bonne question. Hein? Puisque personne n'est parfait, jusqu'à quel point il faut être bon? À quel point on est assez bon pour être sauvé? C'est un très beau message. J'en ai deux copies. Ceux qui en veulent pourront se servir après coup. Je vois déjà quelqu'un de devant qui va prendre la première copie, alors il en restera une autre. Combien de fois choisissons-nous de nous placer nous-mêmes sur le trône de nos propres cœurs, plutôt que d'y laisser Dieu? C'est son trône. Combien de fois faisons-nous des grimaces à nos confessions de foi? Combien de fois faisons-nous faux bond à la grâce de notre élection? Combien de fois contredisons-nous la grâce de notre réconciliation et passons-nous outre la grâce qui nous habite? Mais dans tout cela, Dieu accorde une grâce plus excellente. Son initiative n'est jamais à court. Sa générosité est sans limite et sa patience est complètement inépuisable. Dieu accorde une grâce plus excellente. La grâce de Dieu est infiniment plus grande que tous nos péchés réunis. Je ne vous connais pas dans l'intimité, je vous trouve tous très sympathiques, mais je ne vous connais pas personnellement. Je ne sais pas quel est votre état d'âme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes des gens qui vivez dans le Christ Jésus ou si vous êtes en visite ou quoi que ce soit. Mais sachez que quel que soit l'état de votre péché, quel que soit le nombre de vos péchés, quelle que soit la gravité de vos péchés, si vous venez au Christ Jésus et que vous jetez vos péchés, au-dessous de la croix, vous recevez une justification entière et parfaite. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi de dire le Christ Jésus. Timothée chapitre 2 verset 13 nous dit « Si nous sommes infidèles, il, Dieu, demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » On sait que nous sommes infidèles même comme croyants. C'est ce qui faisait dire à Martin Luther « Justus et peccator » à la fois juste et pécheur. Nous sommes justes, justifiés par l'œuvre parfaite du Christ Jésus. Je me souviens, quand j'étais petit, dans mon ancienne religion, on disait « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. » C'est vrai, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par le fait que le Christ a tout subi, a tout porté en croix, nous sommes guéris, nous sommes sozo, nous sommes sauvés. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Savez-vous pourquoi nos désirs désordonnés ne peuvent pas épuiser la grâce de Dieu? Pourquoi Dieu donne toujours plus de grâce? Bien, les réformateurs nous ont donné la réponse, ou nous ont redonné la réponse, si vous voulez. La grâce, ce n'est pas une substance que vous et moi, on peut entreposer et qu'ensuite on distribue selon les besoins de chacun. L'une des grandes récupérations de la réforme, c'est que la grâce est une personne. C'est pas une chose, c'est pas un élément, c'est une personne. La grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Christ en croix. Le Christ Jésus, mort pour nous dans son sacrifice unique et qui a dit « Tétélestai, tout est accompli. » Quand tout est accompli, là, qu'est-ce qui reste à accomplir? Comme on dit au Québec, à rien. Hein? Tout est accompli. Il ne reste à rien à accomplir. Tout a été parfaitement accompli à la croix par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin a été accompli, et ça comprend la somme incommensurable de grâce pour toutes les sphères de notre marche chrétienne. On est loin, là, du « t'es beau, t'es fin, t'es bon, t'es capable ». La réalité, c'est « t'es pas beau, t'es pas bon, t'es pas fin, t'es pas capable ». Christ était capable. Le seul entrepôt de la grâce est en Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété ». Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est un verset qui avait assommé Luther complètement. Quand Luther a lu ce verset-là, il était complètement renversé. Devenir participant de la nature divine. Ça ne veut pas dire qu'on devient divin, mais on participe à la sainteté. La sainteté divine nous est en quelque sorte communiquée comme ses attributs qui se communiquent. Et ça m'amène à mon deuxième point, donc après l'entrepôt de la grâce qui est en Christ Jésus, les bénéficiaires de la grâce. Est-ce que cette grâce-là, c'est pour tout le monde sur la planète, là? Tout le monde sur la planète reçoit une grâce plus excellente. Ce n'est pas tout à fait ce que le texte nous dit. Maintenant, la grâce de Dieu, elle a un corrélatif en l'homme. Jacques nous a pointé la suffisance de Dieu et il tourne maintenant sa baguette vers notre responsabilité. Voici la grâce plus excellente, conquérante. Oup! Voici notre responsabilité. En fait, au verset 7-10, on retrouve 10 commandements. 10 commandements auxquels il nous faut nous soumettre, nous sommes enjoints de nous soumettre. Le texte fait ressortir clairement que l'habitation de l'Esprit en nous n'est pas un moyen de sanctification instantanée. C'est pas comme ça que ça marche dans l'ordo salutis. Ce n'est pas quelque chose d'instantané et de sans effort. Nous pouvons très bien persévérer dans certaines désobéissances, même avec le Saint-Esprit en nous. Chose certaine, il n'y a pas de victoire facile, il n'y a pas de couronne sans croix, et il n'y a pas de fête de Pâques sans Vendredi Saint. Il faut que ça passe quelque part, par une expérience préalable. Hein? Les bénéfices de la grâce et d'une grâce plus excellente sont nôtres tout au long d'une route d'obéissance, et encore de plus d'obéissance. Le même Dieu qui a dit « Voici ma grâce à recevoir », dans un même souffle, il a aussi dit « Voici mes commandements à obéir ». Bien sûr qu'on obéit imparfaitement, mais nous avons un cœur disposé à vouloir le faire. Et ce lien indissoluble entre l'expérience et la grâce, entre l'expérience de la grâce et la vie d'obéissance, ressort clairement des versets 6 et 7, où on pourrait mettre des « dons ». Si on regarde les versets 6 et 7, par exemple. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc, il accorde une grâce plus excellente. Verset 7, donc, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Vous voyez, les deux vont de pair. La réception et la soumission sont tout à fait indissociables, inséparables, l'un de l'autre. Premièrement, plus de grâce disponible par le don de Dieu au verset 6a, alors qu'au verset 6b, le texte nous dit de manière limpide, qui va jouir de cette grâce-là? Qui va jouir de cette grâce-là? Deuxième partie du verset 6. Les humbles. Voilà le mot. Il y en a encore. Des humbles. Hein? Il y a ceux que Dieu, par son Esprit Saint, humilie et qui se repentent et qui viennent effectivement au Christ. Alors, les humbles jouissent de cette grâce-là. Verset 6b, l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est une donne qu'on retrouve partout dans l'Écriture sainte. Dans le grec original, le mot « résister »,« Dieu résiste », c'est un terme militaire qui fait référence à une armée bien équipée, bien préparée pour le combat. Et cette armée-là, à qui résiste-t-elle? Ben, elle résiste aux orgueilleux. Vous savez, lorsqu'on s'enveloppe d'orgueil, on est directement confronté à Dieu. On n'est pas de calibre, hein? Et pourtant. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil suppose quelqu'un qui se croit un tout petit peu au-dessus des autres. Et nous sommes tous, en quelque part, affectés par l'orgueil. Quelqu'un a été épargné par cela? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a même pas. On est tous un peu affectés, quelque part, par l'orgueil. Il y a un peu de mépris et d'arrogance dans l'orgueil. Comme le mot l'indique, d'ailleurs, le mot pour le mot orgueil, c'est hyperéphanos, hyper, au-dessus, phanos, paraître. Paraître au-dessus, c'est le mot qui est traduit ici par orgueil. Il y a une petite connotation d'arrogance, une petite connotation d'être hautain, et c'est la manière d'ailleurs dont le mot est traduit dans Romains 1.30 et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Il est un petit peu associé à la vantardise, en quelque sorte. Donc, la grâce et l'orgueil sont toujours en guerre. L'orgueilleux résiste à Dieu. Et vous savez quoi? L'une des manifestations de l'orgueil, là, c'est la religion. J'ai ma religion. Je m'enorgueillis de ma religion. On s'enorgueillit du Christ, non pas de notre religion. Parce qu'il y a des religions, effectivement, des religions d'œuvre, où on peut très bien s'enorgueillir. Les pharisiens s'enorgueillissaient de leur religion, la juiverie. Ils s'enorgueillissaient beaucoup, beaucoup de cela, et ça ne les a d'aucune façon amenés vers le Seigneur, au ciel. Donc, l'orgueilleux résiste à Dieu dans sa compréhension, il résiste aux vérités de Dieu, dans sa volonté, il résiste aux lois de Dieu, et dans ses passions, il résiste à la providence de Dieu. Ce n'est pas étonnant que Dieu lui résiste. C'est sérieux, vous savez, que de faire de Dieu son ennemi. J'aime beaucoup cette pensée d'un théologien qui n'était pas la redéfinition de l'orthodoxie, mais qui avait quand même d'allure, Richard Niebuhr, théologien du 20e, qui écrivait à propos de la théologie libérale. Il écrivait ceci. « Elle décrit un Dieu sans colère qui amène des hommes sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. » C'est bien dit. Le libéralisme, c'est un peu de chose, cela. Une rencontre dans la théologie libérale, c'est un pique-nique familial, en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup de présence divine dans le décor. Dieu n'a rien à cirer des orgueilleux. Rien à faire des orgueilleux. Qui, en quelque sorte, s'exclut de sa grâce. Par contre, les humbles sont plus que les bienvenus. Retournons à notre prophète messianique, Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Voici... C'est Dieu qui parle par la plume d'Ésaïe. « Voici sur qui je porterai mes regards. » C'est pas petit, hein? Dieu porte ses regards. « Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui réalise son besoin. » Et quelle est la première béatitude, la plus fondamentale? Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, de leur sécheresse spirituelle, qui ont un grand besoin de grâce. C'est une grande grâce, vous savez, que de réaliser notre pauvreté spirituelle, et j'espère que c'est notre cas. Ça nous rend d'abord moins durs avec les autres, ça nous rapproche du Christ, mais ça nous rend aussi beaucoup moins durs avec les autres, et ça tempère l'esprit de jugement. John MacArthur décrit... « Tout comme l'orgueil est la racine de tout péché, l'humilité est la racine de toute justice. » C'est elle qui nous amène au Christ, l'humilité. C'est elle qui nous amène au Christ. C'est la grâce qui triomphe de la disgrâce. Et ça nous amène à notre troisième point, la marche dans la grâce. On a vu donc que Dieu offre une grâce en plénitude. On a vu que cette grâce-là n'est pas universelle, elle n'est pas automatique, alors qu'elle est réservée aux humbles. Maintenant, comment les humbles peuvent-ils marcher dans cette grâce-là? Le texte nous donne comme réponse, sans équivoque, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Soumettez-vous donc à Dieu. Dieu donne... une grâce plus excellente, donc, soumettez-vous donc à Dieu. La Bible ne nous place pas devant un choix d'expression de notre spiritualité, là, des choix aussi valables les uns que les autres. Non, Dieu ne peut blairer les idoles et la seule façon de vivre sous son regard approbateur, c'est soumettez-vous donc à Dieu. L'obéissance, c'est la réponse normale à la grâce de Dieu. L'orgueil, vous savez, l'obéissance, c'est la réponse normale donc à la grâce de Dieu. C'est l'outil que Dieu emploie dans nos vies pour nous faire grandir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, il parle de ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. élu selon ce que Dieu avait décidé d'avance, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant, comme je le disais tantôt, si on regarde au verset 7 à 10, on retrouve 10 commandements que nous résumerons en 4 grandes lignes directrices. Et comme on s'efforce toujours dans la prédication de trouver des méthodes mnémotechniques pour que les gens se rappellent un peu ce qu'on leur a raconté, j'ai pensé intituler chacune de ces grandes directives-là par un mot commençant par « C ». OK? Alors, le premier mot, bien sûr, que j'ai pu trouver là-dedans, c'est « combattre ». La première grande directive, c'est « combattre ». La deuxième grande directive, c'est « communier ». La troisième grande directive, c'est « consacrer ». Et la quatrième, c'est « confesser ». Combattre, communier, consacrer, confesser. Et nous avons deux commandements clés qui nous sont donnés déjà au verset 7 pour le combat, pour combattre. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Bon, c'est un langage militaire qui risque d'être mal compris. Le mot « se soumettre » n'est pas très populaire dans notre société. Il n'est pas toujours très populaire dans nos églises non plus. Hein? Même dans sa vraie forme. Mais très souvent, il est associé à une espèce d'esclavagisme. Se soumettre, c'est s'écraser devant quelqu'un, c'est s'inférioriser. Non, on est tous égaux et il n'est pas question de se soumettre. Alors, c'est un terme qui peut être mécompris. On n'a qu'à penser au couple, où la femme est appelée à se soumettre à son mari. On ne parle pas de faire de sa femme un esclave, n'est-ce pas? Hein? On ne parle pas d'une marche servile, où elle s'en va les pieds nus, puis là, à chaque fois qu'elle reçoit un coup de fouet, elle fait un pas en avant. Hein, c'est beaucoup plus civilisé que cela. C'est une position que Dieu lui a confiée. D'ailleurs, le mot soumettre, hupotasso, hupotaxis, hupo veut dire sous, taxis veut dire ordre, veut dire simplement se mettre sous l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu n'a pas infériorisé la femme, comme il n'a pas infériorisé l'employé face à son employeur, comme il n'a pas infériorisé les membres d'Église par rapport aux anciens. Pourtant, dans chacune des occurrences où on retrouve ces gens-là nommés, il est question du potasso, il est question de soumission. C'est pas comme lorsqu'on était jeune. C'est vous qu'on était jeune, ben c'est peut-être que les plus jeunes ne se rappelleront pas de ça, mais quand on faisait dire à quelqu'un qui était plus faible que nous, là, tu vas dire mon oncle, te rappelles-tu de ça? Hein? On lui tordait le bras, là, dis mon oncle, non, ne dirais pas mon oncle, dis mon oncle, puis le rendu au cinquième tour, hey, mon oncle, puis là on lâchait le bras, ça faisait mal. Hein? Ça c'était de la soumission, un volontaire conscrit, dirait l'autre. Il y avait pas le choix. C'est pas du tout le sens ici qui est donné au mot soumission. Comme je viens de dire, le mot hupotasso a une notion beaucoup plus noble que cela. C'est un mot qui nous parle d'allégeance active volontaire. On n'est pas forcé à la pointe du fusil. C'est une allégeance active volontaire. C'est pas de la passivité. C'est volontaire, mais c'est actif. C'est pas de la passivité. Ça veut dire que ça prend un effort pour nous soumettre. On est d'accord là-dessus. Pour nous soumettre aux autorités, ça prend un effort. Pour nous soumettre aux lois lorsqu'on conduit notre automobile, ça prend une discipline. Hein? Dire, je vais arrêter ici, il y a un arrêt. Hein? Ça prend une discipline, un effort intellectuel. Même chose pour une femme dans son foyer, ça prend un effort pour se soumettre. C'est pas de facto, c'est pas passif. Non, c'est actif et c'est volontaire. C'est pas « je m'écrase sous une force plus grande que la mienne ». Je le fais de bon gré et activement parce que c'est une grâce que de faire la volonté du Seigneur. C'est l'opposé de la résistance qui doit se manifester devant les injonctions du diable. Résistez au diable. Préparez vos défenses. Préparez-vous à un conflit devant le diable, devant toutes les injonctions du diable. Ce que Jacques est en train de dire ici, c'est que lorsque la grâce envahit nos cœurs, c'est pas la fin du combat, mais c'est le début du combat. C'est le début du combat de la foi. La grâce nous est donnée pour combattre, pour résister, pour nous servir d'armure tout au long de notre pèlerinage terrestre. Parfois, ça vous arrive peut-être, je sais, comme pasteur, ça nous arrive assez souvent. Il y a des gens qui téléphonent ou des gens viennent nous rendre visite en disant, « Bien là, pasteur, j'ai un gros combat, j'aimerais que vous m'aidiez. » On veut bien les aider. On leur dit, « Mais voyons donc, t'as un combat, t'as la grâce. » C'est pour ça qu'on répond. Hein? On sait très bien que la grâce ne met pas fin au combat, loin de là. Le problème, ce n'est pas le combat, c'est le manque de combat. Parce que dès qu'on vient dans la grâce, c'est évident qu'on est appelé de facto à résister à Satan, ce qu'on n'est pas invité à faire auparavant. Le combat est l'évidence que la grâce est à l'œuvre et n'a conséquemment rien de surprenant. Lorsqu'on vient à l'Évangile, on ne chausse pas les pantoufles de la retraite, mais les chaussures du zèle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » 1 Timothée 6, 12. Il récidive ici. « Combat le bon combat de la foi, » dit-il à Timothée. « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant comme affirmation? Saisis la vie éternelle que tu possèdes déjà, c'est ce qu'il est dit. Tu as fait une très, très belle confession. Continue de la saisir. C'est ça la grâce conquérante. Hein? Tu as reçu ta grâce pour la justification, tu vas recevoir la grâce pour ta sanctification, tu vas recevoir la grâce pour chacun des aspects de ta vie chrétienne alors que tu t'en vas en croissant. Va chercher la grâce plus excellente, plus grande. La grâce conquérante, c'est le premier principe, être prêt à combattre, ne pas être surpris lorsque le combat se produit, c'est dans l'ordre du chemin de la rédemption. Le deuxième C maintenant, c'est communier. Verset 8a. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la communion, ça. Le caractère impératif de la culture de la communion avec Dieu. Ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons le plus besoin dans le combat que nous menons, combat de la foi, c'est bien de Dieu. On a besoin de sa présence, on a besoin de sa puissance, on a besoin de sa faveur pour contrer la mondanité. Et ici, on n'est pas en train de tomber dans un mysticisme outrancier. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Ce n'est pas par un investissement de sa vie dans une contemplation à pu finir, malgré que la contemplation a sa place, et on aurait nettement bénéfice, n'est-ce pas, à la redécouvrir, ou avec des jeûnes à répétition. Les jeûnes ont leur place aussi, n'est-ce pas, mais ils ont leur place aussi. Ce n'est pas non plus comme Luther le faisait, en sombrant dans la cèse. Vous savez, Luther se flagellait, couchait sur un plancher de béton froid, il s'imposait toutes sortes de mal ou de maux en espérant attirer la faveur de Dieu et en espérant combattre sa chair, alors que ce n'est pas là que ça se passait. J'ai lu quelque part qu'un des ermites de l'époque, n'est-ce pas? Alors, il s'était retiré très, très loin et il voulait chasser de sa chair les tentations intérieures. Il se roulait tout nu dans des épines. Ça n'a pas réglé le cas. Ça a juste usé les épines. Hein? La chair, ce n'est pas par les épines, ce n'est pas par la souffrance extérieure que ça se combat. C'est par la grâce de Dieu qu'on en triomphe. Donc, c'est par les moyens de la grâce, lecture et méditation de la parole, les moyens de grâce, en fait. Vous savez, la vie chrétienne, c'est simple. Hein? Comment est-ce qu'on vit ça, la vie chrétienne? On veut tous avoir des victoires. Quand on est converti, là, on rêve tous que dans quelques mois, on va être parfait. C'est juste de me donner un petit peu de temps, que je fasse la synthèse des péchés, et on va tout maîtriser ça. Hein? On est tous pareils. On se rend compte qu'au bout de quelques mois, il y en faut encore quelques mois de plus. Mais la vie chrétienne, c'est simple. Là. C'est vrai qu'on triomphe contre des péchés particuliers, puis il y a des péchés particuliers qui triomphent encore de nous, sur lesquels on n'a pas encore la victoire. On aspire à l'avoir. Ça nous attriste, ça nous assassine, ça nous chagrine, mais on continue quand même de lutter. Mais la vie chrétienne, c'est simplement de marcher avec Dieu dans les moyens de grâce. Puisque c'est une vie qui se vit par la grâce, la manière de la vivre, c'est d'aller chercher la grâce. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné les moyens de grâce, les canaux par lesquels il nous dirige sa grâce. Et ces canaux-là sont effectivement ce qu'on vient de mentionner. Lecture, méditation de la parole, communion fraternelle, sacrement et prière. Est-ce que ce n'est pas ce que l'Église primitive faisait? Dans Actes 2,42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il persévérait. Ça veut dire qu'il recevait constamment une grâce conquérante, une grâce plus grande, une grâce plus excellente pour aller de l'avant. La persévérance. Et on ne pourra pas abdiquer là-dessus tant et aussi longtemps que nous serons en régime d'incarnation. Tant qu'on va être encore sur cette terre, comme on disait à l'époque dans l'Église militante, nous allons avoir ce besoin-là de persévérer constamment dans les moyens de grâce pour aller de l'avant et recevoir la victoire, la grâce de la victoire acquise en Christ Jésus. Jour après jour, semaine après semaine, bon an, mal an, ils persévéraient ensemble à écouter la bonne parole, à chanter les louanges du Seigneur, à rompre le pain et à laisser monter vers Dieu leur prière. Donc, le combat, deuxièmement la communion, le troisième, c'est la consécration. Fin du verset 8. « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » J'ai mis consécration en raison de ce beau mot-là, « irrésolu », que certains vont reconnaître, c'est le mot « dipsouchas hein? ».« Di » qui veut dire « deux ». Psoucha, c'est le mot pour âme, psychologie. Alors, la personne qui a deux âmes, ce n'est pas la personne qui aime le Seigneur son Dieu de toute son âme. Il y a Dieu et Mammon dans le décor. Il y a une partie de l'âme qui va avec Dieu, puis il y a une partie de l'âme qui va avec le monde. Alors, quelqu'un qui est irrésolu ne recevra rien du Seigneur. Et c'est l'injonction que Jacques est en train de donner ici à ces gens-là. Purifiez donc vos cœurs, vous qui avez deux âmes. Non pas d'un côté le désir de suivre le Seigneur et de l'autre le désir de marcher dans le monde. Lorsque l'allégeance de notre âme est ainsi partagée, il y a un besoin de nettoyage. Très sérieux. Il y a un besoin de purification. On a grandement besoin, passez-moi l'expression, de sarcler nos jardins. Et on voit encore ici l'ordre biblique dans le salut. Jacques ne nous dit pas « Mettez votre jardin en ordre et ensuite venez à Dieu ». Non, il nous faut d'abord venir à Dieu, recevoir cette grâce indispensable et conquérante, et là, faire le ménage du jardin par sa parole et par son Esprit Saint. La justification doit impérativement précéder la sanctification. C'est dans l'ordo salutis. L'ordo salutis, c'est une expression qu'on emploie en théologie pour parler sommairement de l'ordre du salut. Élection, appel efficace, conversion, justification, adoption, sanctification et glorification. Et Dieu ne s'arrêtera pas en cours de route. Il ne s'arrêtera pas uniquement à la justification. Quand sa parole nous dit que sans sanctification, il n'y a pas moyen d'avoir le Seigneur, ben c'est ce qu'il veut dire. Dieu va parfaire l'œuvre de son salut parfaitement. Et finalement, le quatrième élément, la confession, l'aveu, la confession, versets 9 et 10. C'est dur ce verset 2, verset 1. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Comment vous sentez-vous quand vous lisez ces paroles-là? On se sent un peu triste, hein? On dit « qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? » Puis là, on s'en veut d'avoir ri une demi-heure avant, tu sais, ou d'avoir été un petit peu heureux. Hein? Ça a l'air qu'il faut se promener le visage en Stradivarius et toujours triste. Est-ce que c'est ce qu'il nous raconte? Est-ce que c'est ce qu'il veut nous dire? Ce ne sont pas des paroles simplistes que nous avons ici. Qu'est-ce que Jacques veut nous dire par ces propos qui peuvent nous sembler démesurés? Est-ce qu'il ne nous faut plus rire? Il ne faut plus être heureux, il ne faut plus jouir de la vie. Ce n'est pas du tout le message. Ce que Jacques est en train de faire, il ne fait qu'utiliser le langage de la repentance. Si on avait à synthétiser le verset, ce serait « Repentez-vous », dit-il. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'on voit notre péché et lorsqu'on voit le dommage que notre péché a causé? À Dieu, bien sûr, et à quelqu'un d'autre. Ben, nous expérimentons effectivement ce que disent ces versets-là. On sent notre misère, on se sent dans le deuil, ça nous attriste, on est dans les larmes, on n'a pas envie de rire, on est comme en deuil, hein? Nous sommes dans la tristesse. Et il nous faut reconnaître que cette conscience de notre péché, c'est une grande grâce. Une grâce, pensez-moi l'expression, sanctifiante, qui nous confirme que nous sommes du côté de Dieu. Et quelle en est la résultante? Et il vous élèvera. Bien-aimés, la grâce plus excellente, la grâce conquérante de notre Dieu nous convoque au combat, à la communion, à la consécration et à la confession. Voilà son œuvre dans notre vie d'obéissance. Il faut nous rappeler que le salut, c'est être sauvé, on dit souvent de nos péchés, oui, mais c'est être sauvé de notre propre volonté. Parce que c'est le péché initial. Choisir notre volonté en Éden plutôt que la volonté de Dieu. C'est être sauvé de notre propre volonté dépravée. Si la grâce de Dieu ne fait pas l'œuvre première de nouvelle naissance, il n'y a aucune possibilité de connaissance, il n'y a aucune possibilité de croissance dans les voies du Seigneur. À titre d'exemple, en terminant, permettez-moi de considérer l'histoire de trois gouverneurs romains. Enfin, un roi, un gouverneur, quelqu'un qui était en poste. Festus, Agrippa et Félix. Les trois ont été exposés à la prédication de Paul, au livre des Actes 24 à 26. D'abord, Festus parle le langage de l'homme naturel pour qui la prédication de l'Évangile, c'est une folie. Ça ne correspond pas à la logique humaine pour lui. Chapitre 26, verset 4 du livre des Actes, comme il parlait ainsi pour sa justification, c'est Paul qui parlait. Festus dit à haute voix, « T'es fou, Paul! Ton grand savoir t'a fait déraisonner! » Alors, il y a quelque chose qu'on comprend ici. C'est que Festus a saisi le message de justification que Paul lui prêchait. Oui? Il l'a reçu d'une manière rationnelle, de manière intelligente, il a compris. Mais pour lui, non, c'est pas ça que je veux, c'est de la folie. T'es fou, Paul, et il rejette le message. Agrippa, lui, a été impressionné et même ému. Chapitre 26, versets 25-28. Paul de lui dire, « Le roi est instruit de ces choses, et je lui parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Oui. Bonhomme est interpellé, il est ébranlé. Il croit au prophète. Le discours que Paul tient, ce n'est pas un discours nouveau pour lui. Et ça le fatigue. « Tu vas bientôt me convaincre de devenir chrétien, » dit-il. Et, quant à Félix, il a été davantage bouleversé, chapitre 24, verset 25. « Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, » on pourrait traduire par « tremblant », Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. » Il avait été effrayé par le discours. Il savait qu'il y avait une vérité dans ce discours-là. Il ne voulait pas l'entendre. Voyez-vous, à ce qu'on sache, aucun des trois ne s'est converti. Il représente un tout petit peu ce que nous avons vu à l'école de dimanche tantôt, le portrait d'un inconverti. Hein? Aucun des trois ne se serait converti à ce qu'on sache. C'est-à-dire que l'homme naturel, pour connaître quelque chose des vérités divines, il faut venir à Dieu. L'homme naturel ne peut recevoir, ne peut connaître quelque chose des vérités divines. Et nous avons, nous en avons dans nos églises, des gens qui sont là, qui entendent le discours religieux, mais qui ne peuvent recevoir les vérités divines, qui n'ont pas reçu de Dieu cet amour-là, cette lumière-là. Et c'est une invitation à eux de crier à Dieu, de les éclairer et de les illuminer. Son intelligence, voyez-vous, à ces gens-là, peut comprendre le message. Ces trois rois-là, leur intelligence faisant en sorte qu'ils comprenaient le message. Même dans certains cas, celui qui tremblait, sa conscience était fortement interpellée, il avait peur. Il tremblait, était interpellé. Mais la volonté peut encore refuser d'abdiquer. La volonté. C'est Luther qui a écrit le grand classique de Bondage of the Will, la volonté serve, hein? Un petit peu contre Erasme, à l'époque de la Réforme, que notre volonté, elle est serve, elle est asservie. Elle ne peut pas abdiquer sans l'œuvre de Dieu. On peut comprendre le message. On peut être fortement touché dans notre conscience par le message. Mais tant que le feu n'a pas été mis à notre volonté, on va rester là où on est. Jean chapitre 5, verset 39-40. Jésus de dire aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Il avait raison. Hein? C'est dans les Écritures qu'on sait où trouver la vie éternelle. Alors, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vouloir, c'est quoi ça? C'est pas la volonté. Et vous, notre problème? C'est notre, j'ai failli le dire, je l'ai retenu, c'est notre volonté. Le problème, c'est notre volonté. La valeur de l'efficacité de la mort de Jésus réside dans l'obéissance, dans son obéissance et dans la nôtre, alors que le Saint-Esprit vient courber notre volonté. Vous savez quoi? Lorsqu'on est converti, lorsqu'on vient au Christ Jésus, lorsque le Seigneur nous fait entrer chez lui, en quelque sorte, il nous donne une nouvelle vie, hein? On appelle ça la nouvelle naissance. On reçoit une nouvelle volonté. On reçoit une nouvelle disposition de cœur et on reçoit une nouvelle volonté. Eh bien, cette volonté-là, nous sommes appelés par la grâce de Dieu, par la parole, à la développer et à nous soumettre toujours de plus en plus à cette grâce conquérante que Dieu ne manque pas de nous donner en surabondance en Christ Jésus. Amen. Amen.